Amis d'Audio-Occitanie, de la poésie, bonjour, les poètes, une émission de Claude Bretin et Christian Saint-Paul. Alors avant de vous faire écouter le poète de cette semaine, qui sera un hommage à un de nos grands poètes français disparus, il s'agit de Jean Rousselot, je voudrais faire une petite annonce pour un livre qui a paru aux éditions Poepsie, dans la collection de poésie dirigée par Daniel Faugeras et Pascal Janot. Alors ces éditions Poepsie sont des éditions RS qui ont leur siège à Toulouse, mais la collection Poepsie est gérée donc par Daniel Faugeras et Pascal Janot, qui sont elles dans le Gard, à Liuc, dans le Gard. Alors, elles font paraître un volume vraiment extraordinaire dans cette collection Poepsie. D'ailleurs, il s'agit d'un ouvrage qui est subventionné par le CNL, mais également par les associations, enfin, les influences chinoises, aux éditions RS. Il s'agit de Guillaume Fabre, qui fait paraître Instant éternel, cent et quelques poèmes connus par cœur en Chine. Dans cette collection, donc, qui est une collection exceptionnelle, parce que elle déroge un peu aux publications quotidienne, ordinaire, puisque c'est la collection aparté. Donc il s'agit là d'un volume d'abord qui est un très très beau volume, avec des images de couverture du studio Yang Yong Liang, donc un photographe donc chinois, ce photographe est né en 1980 dans la vieille ville de Jiading à Shanghai. Et Yang Yong Liang étudie la peinture traditionnelle chinoise et la calligraphie depuis son enfance et est diplômé en communication visuelle à l'Institut de design de l'Académie des arts de Chine. Il vit actuellement à New York, à Shanghai, où il enseigne, donc New York et Shanghai, où il enseigne à l'Institut d'art visuel. Et puis Guillaume Fabre, donc, qui a fait cette sanction de tous ces textes sur ces cent et quelques poèmes connus par cœur en Chine, Guillaume Fabre a été très tôt attiré par l'ailleurs. Il a voyagé, il a séjourné en Extrême-Orient, devenu sinologue. Il a traduit plusieurs ouvrages du chinois tout en poursuivant une écriture poétique marquée par une attention aux instants, à la finitude vécue et une ouverture à l'infini, à l'éternité par les astres. Hein, vous voyez, donc on est là dans la poésie très, très métaphysique avec une intention donc d'absolu, de trouver cet absolu par Guillaume Fabre. Alors je reparlerai de cet ouvrage, je ferai peut-être même une émission entière là-dessus, mais je voulais d'ores et déjà le signaler. Donc aux éditions, je vous disais, l'édition RS, hein, Poepsie, hein, la poésie chinoise, vous le savez, elle est au cœur d'une civilisation qui s'est perpétuée par les signes en l'absence de monuments antiques. Et donc ce livre, Instant éternel, il rassemble les poèmes les plus connus et il détaille pour la première fois les usages contemporains des vers ou des quatrains célèbres qui ont assuré leur transmission au fil des siècles. La fréquentation assidue du terrain et des sources a permis de replacer les textes dans leur contexte en dessinant une galerie de portraits qui incarne l'histoire de la Chine à travers ses créateurs préférés, surtout les poètes des dynasties Tang et Song, c'est-à-dire les dynasties du 7e au 13e siècle. Voilà. Alors, il y a une traduction qui est très bien faite aussi. Je vais vous donner juste petit exemple de ces textes, le palais secondaire. Il s'agit là de Wanzhen. Wanzhen, il a vécu de 779 à 831. par l'ancien palais désolé, ses fleurs rouges et solitaires, des dames de cour aux cheveux blancs, assises, désœuvrées, évoquent l'empereur Xuanzang. Voilà. Donc, Xuanzang a eu une renommée qui est restée longtemps indissociable de celle de Bai Juyi, auquel l'on liait, c'est un autre poète auquel l'on liait une longue amitié et une complicité sur le plan créatif. Vous voyez, à chaque texte, il y a un panégyrique donc du poète en question. Voilà. Et alors, dans ce quatrain là de Saint-Pierre, le palais secondaire, on dit qu'il a été composé en 809, alors que Yuanzhen se trouvait en mission d'inspection, parce que bon, tout ça c'était les lettrés c'était les fonctionnaires à l'époque, hein. Et la scène se déroule dans un palais annexe à la capitale de l'Est que l'empereur n'occupait qu'épisodiquement. Les vers 3 et 4, hein, c'est-à-dire ces fleurs rouges et solitaires, des dames de cour aux cheveux blancs, assises désœuvrées, évoquent l'empereur Xuanzang, sont cités par un public instruit pour souligner l'impermanence des choses. On y est déjà dans cette impermanence des choses. Et l'image de vieil aristocrate entretenant le glorieux souvenir de l'empereur de l'apogée des Tang, c'est un demi-siècle auparavant, hein, peut aussi illustrer plus généralement les situations de nostalgie historique. Donc, à avoir pour tous ceux qui s'intéressent à la poésie chinoise. C'est un livre qui est absolument superbe, absolument extraordinaire, Instant éternel, de Guillaume Fabre, aux éditions Poepsie. Un très beau livre qui vous coûtera 35 €. Alors, maintenant, nous allons rendre un hommage à un de nos grands poètes français. Ce grand poète français, il s'agit de Jean Rousselot. Jean Rousselot, que personnellement j'ai bien connu et qui m'a bien aidé dans la vie, Jean Rousselot est né à Poitiers le 27 octobre 1913. Et il est mort dans les Yvelines, dans le département des Yvelines, à exactement Étang-la-Ville, le 25 mai 2004. C'est un poète qui est indissociable de ce qu'on appelle l'école de Rochefort, c'est-à-dire cette école où culminent René Guicadou, Michel Manol, Jean Bouillet, Luc Berrimont, qui est cette poésie qui s'est insurgée un petit peu contre la prédominance du surréalisme et de la capitale et des villes, et a voulu avoir une poésie plus néo-romantique, disons, et qui était plutôt, qui ne tournait pas en tout cas le dos aux campagnes. Jean Rousselot, eh bien, il vient aussi d'une famille très modeste, très pauvre, de la campagne, et donc cette campagne de Poitevine, et il est, c'est un homme excessivement méritant, puisque très vite, il a passé les concours administratifs. C'est lui d'ailleurs qui a été, en ce qui me concerne, un peu celui qui m'a incité à faire une carrière peut-être dans l'administration et la justice, puisque lui, eh bien, il était rédacteur à la mairie de Poitiers.
Le grincement des gonds au fond de la cour froide taraude ton visage. La bouche sèche, le cœur rouille dans la journée. En vain prolonges-tu jusqu'à l'angoisse parmi les mannequins de plâtre, dans le remugle familier, ta pose devant la glace, ton chant contre la cloison. Chaque matin ramène ta disgrâce avec l'œil terne et gras et qui roule dans ta chambre. L'artiste par lui-même. On dessine une bouche et des mains pour se plaindre, pour ne pas être seul avant de mourir. La figure penche, on n'y regarde point. Il y avait si peu à faire, la couleur est superflue. Tout ce qui brûle renaît. Et sa place est parmi nous. Il m'appartient de refaire la pitié, l'amour, de feindre le sommeil pour corriger le rêve. Nous sommes toujours ici, n'importe où. Bon, j'avais 22 ans. Les vipères précieuses qui vont boire glissent sous les paupières du grès. La perdrix dans les prêles chantera jusqu'à la nuit. Les peupliers ruisselants de bonnes nouvelles tremblent sous les pieds légers du soleil. Je suis l'homme aux durs talons, aux mains d'écorce. Les couteaux rouges du pré traversent mes cheveux et mon souffle au tien se mêle, bonne chère aventureuse de la terre. Quelqu'un ce soir parlait très intelligemment, à mon avis, et j'étais tenté de le contredire, du caractère prophétique de la poésie. J'en doutais un peu, mais finalement, parfois, on la disait quand même, c'était quand même comme ça. Prophétiser, c'est autre chose, mais prévoir, peut-être. Voilà ce que j'écrivais juste au seuil de cette immense catastrophe épouvantable que je ne vais pas m'amuser à décrire. Vous la connaissez même à travers les livres, vous la connaissez. Nous l'avons vécue. Demain, l'immense pourriture de la terre sous les bras les fermes, au front sculpté qui tangue dans la touraine, et planté de futaies d'acier déferlera sur nos têtes. Nouveau monde, ceux qui seront à faune et qui sont prêts, ceux de demain, oh, dès demain, t'attendent, et de joie leurs yeux se mouillent quand ils voient le vélo rouillé dans les orties, la pergola sans rose, au bord de la nuit peut-être, éternelle. Alors, voilà, en pleine guerre, un poème comme ça, la douleur. La douleur est parmi les vivants, comme une fleur pourrissante, longtemps cachée dans la mémoire. Toutes choses sont aujourd'hui visibles, mais la clarté devient aveugle. Voici le temps des cendres sur les quartiers noirs, mais nous sommes tous perdus entre les ruines saignantes. Les mots que l'on croyait usés sont maintenant trop neufs pour nos lèvres inutiles. Il ne célébra des pierres mortes qu'un murmure, aussitôt mort. Voici la faim, voici les larmes, voici le ciel effondré sur nous. Voici le fond du cœur, voici le temps du désespoir. Voilà, je fais vite, hein. Refaire la nuit, alors là, ça devient de plus en plus certain que ça va mal et qu'on ne s'y retrouvera plus. Mais là-dedans, j'ai remis quelques poèmes qui étaient de septembre, juste le départ de la guerre, le commencement de la guerre. Bon, ben, je vais me tenir, si vous voulez bien, pour faire vite, un poème de guerre. La seule agressivité était peut-être d'y nommer l'Europe et de lui donner un titre anglais, histoire d'embêter les Allemands. J'avais appelé ça « Just a Memory ». Je m'excuse pour la prononciation. L'air docile revient et s'infiltre, comme un chien persévérant. Oui, mon front est toujours levé dans la fumée. Oui, ma main va toujours sur le papier. Oui, tu me retrouves malgré tout. Dans toute l'Europe, combien sommes-nous à respirer l'air d'autrefois dans des chambres jaunes et bleues? Reste avec moi, vieux chien, vieille mémoire, courte sera ma vie. Alors, le sang du ciel paraît en 1944 sous les bombardements. Une partie de l'édition est d'ailleurs détruite. J'en ai récupéré que quelques exemplaires. Rien que le titre, le sang du ciel, évidemment, fait allusion à des circonstances qui ne m'étaient pas strictement personnelles. Inutile de le dire. Alors là, je ne sais pas quoi prendre. Ça, par exemple. Du sang, des flammes, de la boue, pour faire ton dernier poème, roi de toi-même, roi de tout, ta couronne est d'os et de crin, les tiens, poète, n'oublie rien. Du sang, des flammes, plein le ciel, et les corbeaux sont des tisons qu'une roue de fer écartèle. Le printemps s'est assis derrière les maisons, l'amour aussi peut attendre. Est-il encore des nuits, des jours? Est-il encore un peu d'eau tendre dans les ornières des faubourgs? Du sang, des flammes, de la boue, poète, aujourd'hui, on partage. Encore un autre du même esprit, nous sommes perdus dans les averses, comme des chiens boueux qu'on a chassés de porte en porte. Mais nous avons gardé le goût du pain et du vin, et nos mains tremblent de délire, nos mains qui pendent comme des drapeaux. Nous sommes perdus, mais on nous attend dans quelques huttes de terre avec le pain et le vin sur la table.
Thank you.
Jusqu'à l'angoisse parmi les mannequins de plâtre, dans le remugle familier, ta pose devant la glace, ton chant contre la cloison, chaque matin ramène ta disgrâce, avec l'œil terne et gras, et qui roule dans ta chambre. L'artiste par lui-même. On dessine une bouche et des mains pour se plaindre, pour ne pas être seul avant de mourir. La figure penche, on n'y regarde point. Il y avait si peu à faire, la couleur est superflue. Tout ce qui brûle renaît, et sa place est parmi nous. Il m'appartient de refaire la pitié, l'amour, de feindre le sommeil pour corriger le rêve. Nous sommes toujours ici, n'importe où. Bon, je vais 22 ans. Les vipères précieuses qui vont boire glissent sous les paupières du grès. La perdrix dans les prêles chantera jusqu'à la nuit. Les peupliers ruisselants de bonnes nouvelles tremblent sous les pieds légers du soleil. Je suis l'homme aux durs talons, aux mains d'écorce. Les couteaux rouges du pré traversent mes cheveux, et mon souffle au tien se mêle, bonne chère aventureuse de la terre. Quelqu'un ce soir parlait très intelligemment, à mon avis, et j'étais tenté de le contredire, du caractère prophétique de la poésie. J'en doutais un peu, mais finalement, parfois on la disait quand même, c'était quand même comme ça, prophétiser c'est autre chose, mais prévoir peut-être. Voilà ce que j'écrivais juste au seuil de cette immense catastrophe épouvantable que je ne vais pas m'amuser à décrire, vous la connaissez. Même à travers les livres, vous la connaissez. Nous l'avons vécu. Demain, l'immense pourriture de la terre, sous les bras les fermes, au front sculpté qui tangue dans la Touraine, et planté de futaies d'acier, déferlera sur nos têtes. Nouveau monde, ceux qui seront à faune et qui sont prêts, ceux de demain, oh, dès demain, t'attendent, et de joie leurs yeux se mouillent quand ils voient le vélo rouillé dans les orties, la pergola sans rose, au bord de la nuit peut-être, éternelle. Alors, voilà, en pleine guerre, un poème comme ça, la douleur. La douleur est parmi les vivants, comme une fleur poussante, longtemps cachée dans la mémoire. Toutes choses sont aujourd'hui visibles, mais la clarté devient aveugle. Voici le temps des cendres sur les quartiers noirs, mais nous sommes tous perdus entre les ruines saignantes. Les mots que l'on croyait usés sont maintenant trop neufs pour nos lèvres inutiles. Il ne s'élèvera des pierres mortes qu'un murmure, aussitôt mort. Voici la faim, voici les larmes, voici le ciel effondré sur nous, voici le fond du cœur, voici le temps du désespoir. Voilà, je fais vite, hein. Refaire la nuit, Alors là, ça devient de plus en plus certain que ça va mal et qu'on ne s'y retrouvera plus. Mais là-dedans, j'ai remis quelques poèmes qui étaient de septembre, juste le départ de la guerre, le commencement de la guerre. Bon, ben, je vais le tenir, si vous voulez bien, pour faire vite, un poème de guerre. La seule agressivité était peut-être d'y nommer l'Europe et de lui donner un titre anglais, histoire d'embêter les Allemands. J'avais appelé ça Just a Memory. Je m'excuse pour la prononciation. L'air docile revient et s'infiltre comme un chien persévérant. Oui, mon front est toujours levé dans la fumée. Oui, ma main va toujours sur le papier. Oui, tu me retrouves malgré tout. Dans toute l'Europe, combien sommes-nous à respirer l'air d'autrefois dans des chambres jaunes et bleues? Reste avec moi, vieux chien, vieille mémoire, courte sera ma vie. Alors, le sang du ciel paraît en 1944 sous les bombardements. Une partie de l'édition est d'ailleurs détruite. Je n'en ai récupéré que quelques exemplaires. Rien que le titre, le sang du ciel, évidemment, fait allusion à des circonstances qui ne m'étaient pas strictement personnelles, inutile de le dire. Alors là, je ne sais pas quoi prendre, ça par exemple. Du sang, des flammes, de la boue, pour faire ton dernier poème, roi de toi-même, roi de tout. Ta couronne est d'os et de crin. Les tiens, poète, n'oublie rien. Du sang, des flammes, plein le ciel. Et les corbeaux sont des tisons qu'une roue de fer écartèle. Le printemps s'est assis derrière les maisons. L'amour aussi peut attendre. Est-il encore des nuits, des jours? Est-il encore un peu d'eau tendre dans les ornières des faubourgs, du sang, des flammes, de la boue, poète, aujourd'hui, on partage. Encore un autre du même esprit, nous sommes perdus dans les averses, comme des chiens boueux qu'on a chassés de porte en porte. Mais nous avons gardé le goût du pain et du vin, et nos mains tremblent de délire, nos mains qui pendent comme des drapeaux. Nous sommes perdus, mais on nous attend dans quelques huttes de terre avec le pain et le vin sur la table. Je ne vous lirai pas à juin parce que c'est un très long poème. Avant que vous insistiez. Ce poème, je me demande comment il ne m'a pas emmené en prison. Car il a paru dans la revue Sud en 1943, au moment où les Allemands étaient particulièrement excités, Vichy aussi. Or, il est tout de même, à mon avis, plus qu'allusif aux événements. Les autres le sont déjà, mais celui-là est encore plus. Juin, ben, c'est l'évocation de juin 40, finalement, avec peut-être ce côté, non pas prophétique, n'exagérons pas, que disait notre ami, mais tout de même, une grande parole d'espoir à la fin, et une assimilation, finalement, à l'hitlérisme, au nazisme, son assimilation au monstre éternel de nos légendes et de nos religions, enfin, quelles qu'elles soient. Hein. C'est vraiment l'incarnation du mal et de la souffrance. Bon, je vais vous le lire, puis j'en lirai moins après. Hein. Alors, la forme est à peu près régulière. Là, je m'étais allé à l'Alexandrin. Bon, ben, on peut ne plus l'aimer, le vieil Alexandrin. Enfin, de temps en temps, ça marche encore. Enfin, je crois. Deux pierres scellées, une main de suie, la treille brûlée, un bras qui suit. Du fond des temps, la mort aspirait la démence. Contre ses dents serrées écumaient les plateaux, les routes, les enclos barbouillés de romances, tournoyés à la grille ainsi que des couteaux. Fracassés, l'eau à nu, barbelée de racines, de sources éclatées, de coutres importuns, infernales, quel typhon de sa poigne d'airain les matait, les pressait, les poussait dans l'abîme. Quel ange, sans trompette et sans drapé pesant, avait posé le pied sur les terriers de glaise, les chaumes ébréchés qu'épellent les faisans, les couchants qu'une vipe accroche à la simèse, et sitôt descendu dans la vieille chaleur qui plaque notre souffle au flanc roux de la terre, fouillant comme l'on fouille au hasard des viscères, brisé le chanvre obscur levé dans l'épaisseur, nouant depuis toujours aux vignes des herbages, le chemin qui chevrotte au tartre des villages, le poitre à l'aventure aux marches du jusant, les pavois de l'automne aux andins frémissants, et fait soudain la nuit sur une forcerie où l'homme était le cerf et l'ange la furie. Deux pierres scellées, une main dessus, la traîne brûlée, un bras qui supplie. Une averse de sang se mettait à courir. On l'entendait de loin claquer comme un galop sur les vergers déserts, sur les routes de cuir. Et soudain, l'avalanche étouffait les falots. Cloués aux quatre coins de la nuit éclatée, ces feuillages visqueux, ces pelages immondes, dont l'enfant kyste rouge avide de clarté, les tyrans du sommeil éclaboussent le monde. Nus, sans armes, et les yeux crevés par les ténèbres, chancelés dans les blés que le soleil englue. Sentir se dérober au niveau des fenêtres le radeau des lavours qui filait sous la nue. N'y avait-il d'espoir qu'au creux de cette paume que les deniers du soir déchirent comme un socle? Était-ce là la main qui cimente les rocs, les arbres, les poissons et les fleurs du royaume? Deux pierres scellées, une main de suie, la treille brûlée, un bras qui supplie. Hier, le grain fervent de main en main coulait. Le pain chaud s'échangeait sur les seuils et le lait. Dieu, que l'on oubliait comme on oublie ses veines, était un grand sommeil étalé sur la plaine. À peine prenait-on garde aux cris d'agonie qu'on entendait le soir au fond des bergeries. Et pour toute une enfance éprise de mémoire, qui plantait ses drapeaux au flanc des ravins gras, l'humble et glorieux temps s'ouvrait comme une armoire avec des pommes vertes calées entre les draps. Léviathan gorgé dormait dans les ferrailles, au fond de tous les yeux veillait un peu d'amour. Le flamenco griffait le cœur et les entrailles, on flattait de la main le plumage du loup. Quel cerne inquiétant sur les maisons camuse, quel scorpion répété de portail en portail aurait pu résister à la gomme diffuse que le soleil dispense au ciel occidental? Deux pierres scellées, une main dessus, la treille brûlée, un bras qui supplie. Vint le glas, descendit l'archange et sa fureur. Sur les berges du sang giflaient d'ailes de fer. Au fronton des manoirs, décevés sous l'éclair, à quoi pouvait servir qu'il fût encore des fleurs? Lui-même, le soleil, pouvait-il n'être encore qu'un grand liseur tournant les pages sur les monts, alors que les plasmas s'ouvraient aux nécrophores et que l'air apprenait son travail aux poumons? Regarde, étais-tu fait pour guider dans la fange la foule en noirs caillots fuyant la pluie de feu? Main de femme, était-il écrit dans ta louange qu'un jour tu brandirais le fanal et les pieux? Le métal empruntait aux guêpes leurs élytres pour pointiller de neuf les packages du son. Les yeux, la peau, le crin reconnaissaient aux nitres droit de cité dans leur concise garnison. Les draps souillés de phares que l'on rejette à l'aube dans les meublés sans air où l'on ronge son frein, quels guerriers maintenant y vautraient leur cuir de fauve? Le caban des guerriers remplaçait le sapin. Biffé par le brouillard des départs incrédules, l'entresol s'estompait dans un coin du sommeil, malgré l'humble sursaut d'un aboi ridicule, non moins terrestre cependant que le shrapnel. On voulait bien. N'allait-on pas vers l'estuaire, et le vouloir de Dieu pouvait-il défaillir? Même celui criblé qui râle dans l'ornière ne peut croire que c'est ainsi qu'on peut mourir. Aucun sous la nuée ardente qui dévore les toits aux chevelus de flammes et de fumée n'a crispé ses deux poings sur la biche entamée, arc-bouté son échine au pan des métaphores. Deux pierres scellées, une main de suie, la treille brûlée, un bras qui supplie. De lourdes fleurs de chair couronnent les murailles, comme les étendards atroces de l'été. Entre les chevaux morts, les canons démantés, l'habitude en lambeaux cherche son attirail. Mais sans hâte, une plaie saignante à son côté, un grand corps ténébreux s'avance à sa rencontre, et tous deux s'épaulant marchent dans la clarté vers la bête de feu que masquent les décombres. Et peut-être demain le monstre, terrassé, contraint de regagner les fonds boueux de l'âme, le Verbe, renaissant comme l'herbe au fossé, nous rendra-t-il les clés fragiles de la fable? Voilà, c'est un poème qui date exactement du 16 et 20 novembre 1942. C'est un peu long, je m'en excuse, puis tout un peuple vivait dans ces boyaux obscurs qu'il allongeait sans trêve, creusant la terre de ses ongles, de ses dents. Tout un peuple vivait sous terre, par les terres, mangeait terre, sans se voir, sans savoir, et jamais n'oublia le soleil, et jamais ne devint aveugle. Voilà, attendez, je vais lire une chose qui résume assez bien un petit peu ce que j'ai pensé, en tout cas de la poésie, à pas mal d'époques de ma vie. L'envie de dire. J'avais dédié à Delteil celui-là. L'envie de dire vient aux mâchoires comme une salive un peu plus amère. L'envie de dire dès qu'on voit, c'est une étrange maladie. C'est une atroce boule d'enfance qui remonte la gorge. On la baptise poésie. Et beaucoup en sont morts sur ces terres nouvelles que le sang fertilise. Voilà encore un autre de là-bas, à peu près cette époque. Le vent se lève avec le jour et fait le tour de la maison où la douleur sommeille encore entre les bras qui l'ont bercée à l'ombre des futaies du sang. Le vent se lève avec le jour et crache noir dans la rosée, sur les chalands aux longes molles, sur les ferrailles oubliées qui recommencent d'exister. Le vent se lève avec le jour et sous les selles un vieux soleil qui roule à travers la mémoire comme un morceau de pain rouillé sur les dalles de la prison. L'homme ne tardera plus guère on l'entend geindre et se débattre dans le silice de sa chair et réchauffer de son haleine l'œuf purulent de son amour. Encore un matin, là, tiens, au fait, ça s'appelle dès l'aube. Dès l'aube, on s'ébroue, on s'étrille, à grande eau la merde des langes, et puis on s'épile, on s'arrange, dans la grande psyché du jour. Déjà, l'on est de vieux amis, nous deux, le chewing-gum de la vie. On marche, on marche. Et si parfois c'est la carotide d'un autre, ou des mots bizarres comme épôtre, ou le soleil tombé d'un toit, qu'importe, puisque l'on est là, qu'importe, puisque l'on est sauf. Ça, c'est un poème d'Afrique du Nord. J'avais été très touché par le cimetière de Tit-Spit, s'il y arrive, à côté de l'Ostaganem. Pliez, pliez doucement les morts quand ils sont encore chauds. Pliez, pliez les morts en trois. Pliez-les tels qu'ils furent au ventre de la femme, dans l'avant-jour laineux. Pliez, pliez les morts et couchez-les doucement dans le grand vagin de la terre avec d'infinies précautions, comme on range, vibrant encore entre les lèvres du velours, l'instrument de musique endormi. Pliez, pliez les morts, mais la tête levée pour qu'ils s'éveillent peints parmi le sang et l'eau aux palmeraies des morts. Alors cette guerre qui m'avait obsédé, elle est revenue encore par la suite dans des poèmes. Elle revient tout le temps, d'ailleurs, même si je ne le fais pas exprès. Et puis ensuite, en vieillissant, là, je prends une expression de Champfort à laquelle je crois beaucoup. Il faut que le cœur se brise ou se bronze. Et j'ai appelé un petit recueil, le cœur bronzé, sous le site, comme on dirait, de Champfort. Alors, voilà. Qu'est-ce qu'on va dire de tout ça? J'en sais trop rien. Ou passer, tout simplement, à quelque chose d'un peu plus spiritualiste. Je n'ose pas dire ce mot-là, ça ne veut rien dire du tout, mais enfin. La vitre. Toute ma mort, je me rappellerai ce remuement risible sous la vitre. Cette poignée de serpent qu'attirait au grand soleil, quelle fugue sans titre. Toute ma mort, je me demanderai pourquoi je ne pouvais briser la vitre, si mince, une eau qui court, et le secret m'échappera, qui me permit de vivre. Gerbe étranglée, si longtemps, dans mon corps. Et je pourrais mourir toute ma mort, que je ne saurais pas pourquoi, si fort, m'appelait cette flûte qui s'est tue, à l'instant même où, dans l'or de la rue, la vitre enfin crevait sous ma cohue. Tinsonné. Ben oui, c'est comme ça, tinsonné. Avec des rimes et des sonances par-ci par-là, enfin, c'est tinsonné, il a ses 14 vers. Alors, ça, bon, un poème d'amour, si vous voulez. Mon lait chaud, mon arbre à pain. Mon aveuglément vivante, ma racine, mon Atlante, ma jeunesse, mon larcin, mon ramage, ma grée, ma lustrale, mon froment, ma sauvage, ma mouillée, ma rivale, mon amant. Se peut-il, quand je m'absente, que tu aies des seins, des bras, des poumons rouges, ou chante un air où je ne suis pas? Est-il vrai que je t'invente? Mon fouet, mon orpheline, ma princesse au bois dormant, mon couteau, ma mousseline, ma mémoire, mon enfant, mon drapeau, ma forcerie, ma guitare, mon léman, mon écluse, ma marie, mon arcane, mes parents. Se peut-il qu'un dieu te sonde quand j'expire sur ta croix? Quand tu me remets au monde d'un flot rouge de ta voix, est-il vrai que tu mourras? Est-ce que vous voulez que je continue au petit bonheur un peu? Bon, là, c'est un poème auquel je tiens tout de même. Il paraît que maintenant je tourne à la philosophie, moi je m'en rends pas compte en lisant, il paraît que, enfin à la fin, ça serait bien plus philosophique. Mais le fait est que j'ai tout de même un certain nombre d'obsessions comme ça, disons qu'elles sont d'ordre philosophique, j'en sais rien. Que l'eau tombe goutte à goutte dans les paumes de la nuit et nous disons solitude, remords, enfance immolée, quand c'est en langage d'eau des choses, d'eau qui se disent des choses, d'eau qui se font. Que le vent froisse soudain la ramée de nos épaules et nous disons prophétie, imminence du verdict. Quand c'est une gerbe d'air qui se défait dans la vasque desséchée de l'univers. Pas de danger que les choses, de leur côté, s'imaginent de prendre pour alphabet nos piètres métamorphoses. Elles nous diraient plutôt de boire nos propres larmes pour retarder notre soif. Elles nous diraient plutôt de prendre garde au langage, aux avances qu'il nous fait d'un royaume ou d'un exil, comme on fera d'un miroir à nos lèvres bleuissantes à l'heure de notre mort. Elles nous diraient plutôt de faire des choses d'hommes, de vin rouge et de pain blanc, et d'oser ce que nous sommes dans le chantier des vivants, pendant que Dieu s'abandonne aux délices du néant. Voilà un poème pour ma fille. Marie, tu as des poèmes pour mes filles quand même. Elle avait 16 ans. Tu as 16 ans. C'est l'âge d'un boulot dans sa force. Debout au coin du bois comme une sentinelle et qui tremble au soleil comme on brûle de froid et qui vibre aux étoiles comme on tremble d'espoir. Mon enfant, je te vois à cet arbre pareil, sans flamme, crépitante, sans faire un pas, errante, avec en toi toujours quelques feuilles qui bougent comme une ablette blanche dans les mailles de l'eau. Je t'aime et je te loue d'avoir 16 ans, de vivre, de rire et d'oublier que tu es vulnérable, ô mon bel avant-poste martyrisé d'oiseau, de coups de vent qui couchent la fumée de ton cœur. Je mourrai, tu vivras. Tu auras des jonquilles à Pâques, plein les bras, jusqu'à la fin du monde. D'ici, je te salue, ma fille de 16 ans, toi qui montes la garde à l'orée du printemps. Si tu me persécutes, il y a en soi un second poète qui est là derrière vous, qui lui peut prendre cette joie artisanale à bien faire ce qu'il est en train de faire. L'art n'est pas forcément fait finalement pour être beau, pour être excitant, pour donner envie de vivre, pas forcément. Il y a de grandes œuvres d'art qui sont des œuvres qui vous désespèrent profondément. En musique, ça existe, Dieu sait. Moi, je sais que je résiste de toutes mes forces à me repasser la symphonie de la Terre de Mahler. Je me refuse. Cette immense joie et douleur que ça va me procurer. C'est une œuvre, pour moi, terrible. Et je crois qu'elle le fut pour lui, pour celui qui l'écrivit. Ce fut une œuvre terrible. Donc, l'art n'est pas toujours fait pour nous divertir, pour nous amuser. À côté de ça, il y a de la musique plaisante. J'en connais peu, à vrai dire. De la musique joyeuse, moi, j'en connais pas tellement. La musique, pour moi, je le dis un peu exprès pour notre ami qui nous a parlé de musique ce soir. La musique, pour moi, est presque inséparable d'une certaine dramaturgie de notre propre vie, d'un certain athlétisme du cœur et de l'âme. J'ai l'impression que ça n'est jamais vraiment gai. Enfin, bon, on ne va pas s'étendre là-dessus. Mais encore une fois, il y a aussi cette satisfaction d'artisan à faire ce qu'il a de mieux à faire. Il y a un poème qui s'appelle « Tout s'explique » auquel je tiens assez bien. « Tout s'explique. Le temps qui s'était couché sur le cœur ou qui avait mal digéré son civet d'espace a fait un mauvais rêve. C'était l'idée de Dieu. Il se réveille. Il en revient. Tout s'explique. On fera de l'ange à volonté demain. Comme on fait déjà du bœuf tout en beefsteak pour les Américains. Il suffisait de savoir exposer l'homme à la bonne lumière, le temps qu'il faut. Encore un petit effort et l'on sera tous des bons dieux. Et l'on saura tous le pourquoi du comment. Et l'on aura au choix des réflexes sans condition ou une condition sans réflexe. Par commodité linguistique, on mettra sur la lune un accent circonflexe. Et si la santé publique l'exige, on fabriquera quelques soleils supplémentaires. Tout s'explique. Est-ce qu'il était raisonnable de caresser un manchon on supprimera les chats, les chiens. Quant aux femmes, elles devront être intelligentes sous peine de mort. Tout s'explique. Nous vivions sur un capital d'illusions, comme les chevreuils qui vont la nuit flairer les tas d'ordures à la lisière. Tout sera clair et net. On s'était fait du cinéma avec des augmentations de pression sanguine, d'inconscients souvenirs utérins, des arcs-en-ciel qui n'étaient que des poussées schizophréniques, des envies végétales de passer outre, les enfants qu'on achète au loup ou à la faillette, c'est tout de même plus propre. Tout s'explique. Le monde, on le fera demain sauter dans sa main. Ce n'était qu'une boîte à conserve, vide et brillante, accrochée dans un buisson. Fallait-il qu'on soit bête ? Tout s'explique peu à peu, et bientôt, l'on sera sans excuse si l'on souffre, si l'on espère, si l'on charbonne un oiseau lyre sur le plâtre de son cœur, si l'on a peur dans une cave, si l'on ouvre ses bras au vent. Ah, j'ai écrit un autre poème pour les 16 ans d'une de mes filles, parce que j'en ai deux. Je vais vous le lire parce que j'aime bien, c'est tout. Anne-Marie, le jour de tes 16 ans, souviens-toi que tu es née sous les bombes, mon enfant. Oui, souviens-toi, Marie, que tu naquis pendant l'abominable guerre, sous les courtines de la terreur, sur un sommier de chair saigneuse. Souviens-t'en, Marie, au nom de mère, de pleureuse, qui prend mesure de son fils en allongeant son corps troué sur ses genoux. Souviens-t'en, le jour de tes 16 ans, et ne l'oublie jamais. Et qu'il y ait toujours du pain dans ta balance, pour annuler le sang, le désastre, la honte et l'injustice, qui vers le bas, si lourdement, tire le monde. Anne-Marie, née sous les bombes, avec ce nom de mère, avec ce nom d'amour, avec ce nom de paix, de perpétuité. Souviens-t'en, quand tu iras dans les autres mondes en week-end, et que je serai mort depuis longtemps. Ces étoiles là-haut ressemblent aux mitrailles qui crevaient les plafonds le jour de ta naissance. Retiens-les de pleuvoir sur l'homme, des labours et des garages, des usines et des fumées. Toujours le même, mon enfant, dans le chef-d'œuvre si vulnérable de sa peau, dans le miracle de sa pensée à chaque instant sauvée des eaux. Sois tout d'amour, Marie, toi qui naquis pendant l'abominable guerre. En prose, Hôtel de Bruges. Ça se trouve qu'il s'appelait comme ça, l'Hôtel de Bruges. En pleine nuit, police, ouvrez! Les amants se sont tus dans la chambre à côté. Le chauffage central continue de chuinter. Celui qui entre empeste la rosée sale des villes. Pourtant, sur son par-dessus, cela brille très dur. On a honte des chaussettes éparses, des cheveux dans le peigne, du restant de pâté, du journal ouvert à la page des crimes. On n'en finit pas de trouver ses papiers. C'est comme ça, la mort. Toujours aux débeautés. Elle a les poings carrés. Elle dit « Grouillons-nous ». Elle marche sans s'excuser sur le passé, bouchonné. Elle a une voiture en bas. Elle dit, avec ses dents en or, que quelqu'un viendra ranger. Le plus dur, c'est d'entendre, quand on descend l'escalier, la fille d'à côté se remettre à gémir encore. Plus à l'aise maintenant dans des poèmes de forme libre. Je ne dis pas que c'est plus facile à faire, d'ailleurs, parce qu'il faut tout réinventer quand on écrit des vers libres. Il faut réinventer la poésie, la prosodie, il faut tout refaire. Cette diction, on n'a pas les béquilles, si j'ose dire, de la prosodie. Enfin, c'est un point de vue. L'espoir. Ne vous habillez pas d'espoir, c'est salissant. Ou bien, éteignez-le en rouge, comme les gladiateurs pour cause de sang, ou bien dans les bruns, comme Job et Lazare pour cause de pourriture. ou bien porter l'espoir des autres, de tous les autres. Il a traîné partout. Il pue la femme et l'ange, c'est la vérité même, humaine, resplendissante.
C'était donc Jean Rousselot. Vous avez remarqué que nous avons fait des pauses musicales dans cette retranscription, dans cet enregistrement de Jean Rousselot qui date donc de 1900, je ne sais pas si je n'ai pas dit 1982, en début d'émission, en fait c'était 1981, à la cave Poésie à Toulouse. Alors ces pauses musicales, c'est évidemment la symphonie numéro 5 de Mahler, puisque vous avez compris, Jean Rousselot aimait beaucoup cette symphonie de Mahler et toute la musique de Mahler, rejoignant en cela d'ailleurs ce qu'en disait aussi notre grand poète, hein, Claude Vigée. La semaine prochaine, nous retrouverons Jean Rousselot pour la suite de cette émission et de ce document qui est un document exceptionnel. À la semaine prochaine, à 17h.